Ah, ça va faire du bien la prochaine heure. Je vous invite à rester là parce qu'on va vous parler de baseball, de gratitude, de la vie, de l'espoir, du courage, de l'amitié, d'un paquet d'affaires. Et on sait où ça part, puis je sais pas où ce que Derek va nous amener, mais Derek Aucoin, notre invité, qui lance son livre « La tête haute », préface de Steve Rogers, postface d'André Dawson, c'est écrit par Benoît Rioux. C'est disponible, ça sera disponible dès les prochains jours aux éditions de l'Homme, et j'ai le plaisir d'avoir Derek avec nous. Bonsoir, Derek.
Salut, Mario.
Comment ça va? T'as l'air en pleine forme?
Merci, Mario. Ben, je suis content. J'écoute ton émission à tous les soirs. Puis je sais qu'on est dans une période unique, ce qu'on vit sur la planète en ce moment, mais félicitations pour le travail que tu fais, Mario. C'est exceptionnel. Tout le monde, toute l'équipe, je connais évidemment Maxime à la réalisation, je connais tout le monde, mais comment vous êtes reviré, puis comment vous avez réussi à faire quelque chose quand même qui est pas du sport, mais qui est quand même dans la qualité de ce qu'on est habitué d'entendre à tous les soirs au 98.5 puis le réseau Cogeco Média, là. Félicitations, puis lâchez pas votre bon travail parce que c'est important d'avoir ta voix, Mario, à tous les soirs comme ça. C'est réconfortant pour les auditeurs. Je suis content de te retrouver comme ça à tous les soirs, comme on est habitué de le faire pendant des années, là.
Ben, c'est le plus beau compliment possible et c'est vraiment gentil. Je transmets je vois les signes de tête de Maxime Lobard, Jean-Michel, puis on le reçoit, puis toute l'équipe du matin au soir, de nuit également. C'est vraiment partagé. Merci de tes bons mots. Puis parlant de voix, d'entendre la tienne aussi, ça fait du bien. On l'entend, on l'a quand même. Là, c'est sûr qu'on a changé de contexte avec l'arrêt des activités, mais tu venais régulièrement en onde à Bonsoir les sportifs. On t'a entendu quand même pas mal ces derniers mois. Puis là, ben, tu nous arrives dans un autre contexte, puis c'est pas la crise du coronavirus qui va nous empêcher d'en parler. Au contraire, on va passer les prochaines minutes ensemble parce que j'aimerais ça que tu racontes ton parcours unique aux gens qui sont à l'écoute. C'est un parcours inspirant. Puis ça veut pas dire que t'as pas eu des embûches. T'en as encore, mais l'idée d'écrire le livre, évidemment, c'est arrivé dans le contexte. Puis c'est pas de ça que je veux parler en premier, mais juste l'idée d'écrire le livre comme exercice de rétrospective. Comment que t'as trouvé ça, Derek, de retourner dans ton passé sportif puis dans les épreuves, des belles choses que t'as vécues également?
Mais ça faisait longtemps que certaines personnes me demandaient d'écrire mon histoire. Et je pense toujours à la fameuse phrase de Ron qui disait « Le chapitre 12 dans le livre que j'écrirai jamais. » Ouais, c'est ça.
Salut, Ron.
Et salut, Ron, oui. Tu penses jamais comme personne, en toute humilité, là, tu penses jamais que t'as tant de choses que ça à dire ou à raconter, mais un coup, tu t'y mets, des fois, tu te réveilles dans le milieu de la nuit, puis tu te dis, hey, attends une minute, faut pas que j'oublie celle-là, là. Puis là, je textais Benoît Rioux, l'auteur, puis je disais, demain, là, pose-moi une question là-dessus. Pose-moi une question sur ce sujet-là, parce que je viens de penser à une autre histoire, faut absolument qu'on en parle dans le livre. Et là, ça venait, ça découlait, puis je pense que facilement, là, on a 240 pages, on aurait pu en faire deux, trois livres même, Mario, là, des histoires. J'ai eu une vie tellement remplie, tellement de belles choses, tellement de belles rencontres, tellement d'anecdotes, tellement de belles expériences, tellement de bénédictions que on aurait pu en faire plus qu'un livre, je pense. Ce qui est encourageant là-dedans, c'est on continue de se battre. Je pense que la plupart des auditeurs sont au courant de ma situation, de ma maladie, mais on va continuer de se battre et on va en écrire d'autres pages. Ensemble, Mario, on écrit d'autres pages.
Ben, j'espère bien, puis on va écrire celle de la prochaine heure en retournant peut-être avec je pense que la majeure partie du contenu dans le livre, mais ça va peut-être nous amener sur d'autres histoires qui seront dans la prochaine édition, mais je vais commencer par un numéro. Et t'es loin d'être un numéro, Derek, mais il reste que c'est intéressant l'anecdote que tu racontes par rapport au numéro 14482.
Incroyable, ça.
Le numéro qui indique ton rang, puis moi, je savais pas ça que ça existait, puis les gens, vous allez peut-être l'apprendre en même temps, là. C'est que dans le livre, Derek, dans l'histoire du baseball majeur, et le numéro 14482, c'est le numéro qui indique ton rang d'apparition au sein de la confrérie historique des joueurs de baseball depuis les Red Stockings de Cincinnati en 1869. C'est drôle que t'aies raconté ça. Je savais pas ça. Je savais pas ça que ça existait, des numéros pour quantifier tous les joueurs qui ont joué au baseball majeur.
Ben, tout le monde a un numéro. Tout le monde a un numéro qui, justement, signifie le nombre exact de d'hommes, parce qu'il n'y a pas eu de femmes encore, qui ont porté un uniforme des Ligues majeures. Et évidemment, tu as le numéro dans le dos, mais il y a un nombre, et on est encore sous 20 000. En 150 ans, il y a moins de 20 000 hommes qui ont porté un uniforme des Ligues majeures dans un match des Ligues majeures. Et mon numéro, tu l'as mentionné, là, tu l'as nommé, en 1996, je suis devenu... C'est quoi le numéro encore?
14 482. À titre de comparaison, Claude Raymond a 9 229. Éric Gagné, après toi, 15 177.
Exact.
Russell Martin, 16 468. Abraham Taureau, l'an passé, 19 643. Pas beaucoup de Québécois,
non, malheureusement. Mais on n'est pas rendu à 20 000 encore.
Non.
C'est incroyable, là, on n'a pas...
C'est quelque chose d'avoir atteint ça. Puis c'est ton rêve, c'était ton rêve d'enfance. Je sais pas à quel âge t'as entretenu ce rêve-là de lancer dans le baseball majeur, mais quand la première fois que t'es et la fois que t'étais arrivé sur le monticule, puis c'est ça qui est triste dans l'histoire, puis tu le racontes bien, mais quand t'es arrivé au monticule, au stade olympique, et que l'annonceur maison t'a présenté, and now, hein, au monticule,
ouais,
pitching
ouais.
for the Expos, number 66, le numéro 66.
Derek, de Boisbriand, Québec.
De Boisbriand, là,
oublie pas,
Québec.
Oublie pas.
Wow.
Je pense que c'était Christian Gauthier. Je suis pas certain, là, mais je pense que c'est bien ça son nom.
Oui. Je ne sais pas si c'était lui à ce moment-là, mais je me souvenais pas que Christian avait été annonceur au stade. Il y avait Marc Léveillé aussi qui le faisait.
Il y a eu
Richard Morancy avant lui.
Évidemment, Richard Morancy, mais je me souviens très bien là de Boisbriand, Québec. Wow! C'était incroyable, ça. Puis je monte la butte, là, c'était le feeling que j'ai ressenti.
Le meilleur de feeling dans ta vie sportive, Derek? As-tu vécu quelque chose de plus fort que ça?
J'ai vécu quelque chose de cool parce que dans le livre, j'explique que à la place Côte-Noire à Boisbriand, chez ma mère où j'ai grandi, on avait une porte, la porte en avant de chez nous était vitrée. Et j'aimais imiter, moi, mes joueurs préférés en avant de cette porte vitrée-là parce que c'était comme un miroir. Puis là, je me regardais et j'imitais la motion de Steve Rogers, par exemple, ou Dennis Martinez, ou Bill Gullickson, ou Andre Dawson au bâton, ou Tim Raines. Et lorsque je suis monté sur la butte, Mario, là, le Catcher's Club en arrière, c'était toute une baie vitrée aussi. Fait que là, j'ai 26 ans, mais soudainement, je me vois dans la vitre en arrière. Puis j'ai 10 ans. Je vois le petit cul dans vite, dans baie vitrée, au stade olympique, là. Je vois ma réflexion dans baie vitrée en arrière. Puis j'ai 10 ans, là.
Wow.
Je suis en train de faire ma motion. Puis là, soudainement, les caméras de RDS ou les caméras de Radio-Canada, la lumière s'allume en haut de la caméra. Fait que je sais que la caméra me voit, là. C'est cette caméra-là qui me regarde. Là, soudainement, ça me réveille. J'attends une minute, là, Derek, là, t'es au stade olympique, là, t'es plus sur la place Côte-Noire à Boisbriand en train de te regarder la réflexion dans baie vitrée, là. Et là, ça m'a ramené tout de suite sur la butte et ça m'a ramené dans le moment présent.
Wow.
Mais pour ces secondes-là, là, c'était comme j'étais le petit bout dans sa baie window en train de se regarder lancer. Puis ça, c'était un beau moment. Ça, c'était cool au bout, là. Wow, c'était spécial de me voir ma réflexion dans l'espèce de fenêtre du club du receveur en arrière, puis de me regarder dans l'uniforme blanc des Expos, puis de lancer, faire ma motion, puis d'attraper la balle. Ça, c'était sharp. Ça, c'était cool.
Ce qui est un peu bouleversant, même en lisant, alors on a juste imaginé pour toi, c'est que peu de temps après ce moment magique-là, t'as vécu, ça n'a pas été long que t'as vécu ce qui est devenu la plus grande déception de ta vie sportive. La décision de Jim Beattie de te dire « On ne te gardera pas avec nous autres. » Ça a été donc ta dernière apparition au Monticule pour les Expos, ta deuxième.
Oui, c'était une montagne russe un peu. J'ai vécu, évidemment, l'euphorie du rappel, traverser les États-Unis, partir de Rhode Island jusqu'à San Francisco, fouler le terrain, le rappel, le premier match. Bon, ben, je subis la défaite. je mets pas ça perdre, évidemment, surtout pas perdre le match, les Expos perdent le match. Revenir à Montréal sur l'avion avec l'équipe, premier match au stade, bon ben ça aussi, il y a de l'euphorie là-dedans. Bien joué, bien lancé, être nommé le joueur Black and Decker du match.
Black and Decker.
Tout va bien.
Oui.
Là, les journalistes veulent me parler. Je signe des autographes, les jeunes qui sont là. Mais ma casquette était mouillée un peu à l'intérieur. Mon gant était mouillé. Là, je traînais ça. Moi, je trimballais ça. Tous les préposés à l'équipement avaient nettoyé le dugout. Alors, moi, je décide, savez-vous quoi? Pour avoir deux mains, pour pouvoir prendre des photos, puis laissez-moi aller porter mon équipement dans le vestiaire. Je vais juste aller porter mon gant puis ma casquette dans le vestiaire rapidement, puis je vous reviens tout de suite parce que je voulais passer le temps avec les jeunes. Je voulais passer le temps avec les partisans qui attendaient pour prendre en photo puis pour avoir des autographes. Mais quand tu rentrais dans le vestiaire des Expos, Mario, si tu t'en souviens...
Oui,
là,
je m'en souviens.
Le bureau du coach de Philippe était immédiatement à gauche en rentrant.
Oui.
Alors, j'ai même pas eu le temps de me rendre à mon casier, à mon vestiaire, qu'immédiatement Jim Beattie me prenait, puis il m'amenait dans le bureau à Philippe, puis ma ballonne, elle dégonflait vite en maudit, là. Alors, immédiatement, c'était « On va te retourner à Ottawa » de Kirk Reeder. On débarque sur la liste des blessés demain. Je pense que Kirk Reeder prenait le départ le lendemain, et on te retourne à Ottawa. Alors, j'ai déposé ma casquette et mon gant. Je suis revenu quand même faire face à la musique et voir les partisans qui avaient attendu tout de même. J'avais le cœur, le cœur avait tombé. La ballonne était... Encore une fois, c'était un bas. Je frappais un autre bas parce que moi, j'avais fait ce qu'on m'avait demandé. J'avais bien lancé dans ce match-là. Et Jim Beattie, des jours auparavant, m'avait dit... que les Expos, la raison pourquoi les Expos m'avaient pas rappelé avant, alors que je lançais très, très bien à Ottawa, je me souviens, moi, sur le tableau indicateur à San Francisco, lorsqu'on a mis mes statistiques au tableau indicateur, j'avais une moyenne de points mérités de 1 point quelque chose. On était rendu au mois de mai, là. Le mois d'avril était passé. On est rendu à la fin du mois de mai. J'ai une moyenne en bas de 1.5 comme releveur. Ça va très bien, mes affaires, là. On avait rappelé Alex Pacheco qui avait une moyenne de points mérités de 7 points quelque chose. On l'avait rappelé 5, 6, 7 fois déjà. Alors moi, j'avais pris le téléphone, j'avais juste demandé à Jim Beattie, faut que je fasse quoi, moi, pour mériter d'être rappelé? Puis il m'avait juste dit, Derek, lorsqu'on va te rappeler, là, on veut pas faire le yo-yo avec toi. On veut pas te rappeler, puis te descendre, puis te rappeler, puis te descendre. Lorsque toi, tu vas être rappelé pour de bon. Ça va être pour la saison. Fait que moi, je pensais, je t'ai rappelé pour la saison, j'ai pas mal fait, j'ai perdu un match, j'ai lancé deux bonnes manches à Montréal, moi, je pensais qu'on commençait à bâtir quelque chose. Alors, j'ai été surpris, j'ai été attristé, et je me faisais rétrograder.
Et si tu me permets de lire un extrait,
oui.
J'étais fâché, dégoûté,
oui.
Tout un accomplissement, mais aussi le début de la fin. Je ne me suis jamais remis de ce revers. Et c'est toute une déclaration dans le livre, ça fait, surtout quand on te connaît, on replonge dans ton histoire, et j'aimerais ça qu'on reprenne exactement là, au retour de la pause, Derek, si tu le veux bien.
On va le faire, parce que j'avais quelque chose à te dire, ça tombe bien, le timing est bon.
Parfait! Et on passe de très beaux moments en compagnie de Derek Aucoin, qui lance une biographie, une autobiographie, Derek Aucoin, la tête haute, préface de Steve Rogers, postface d'André Dawson, et c'est écrit par Benoît Rioux, un collègue de travail à Derek, à TVA Sport, qui travaille également pour Québécois, QMI Média. Et je vais reprendre exactement où on était avant la pause, parce que c'est tellement un moment important, sinon peut-être le moment le plus important avec les deux versets, là, les deux côtés de la montagne, les deux aspects, la réussite, l'accomplissement, et je reprends la citation de tout à l'heure, mais aussi le début de la fin. Je ne me suis jamais remis de ce revers. Tu venais de toucher à ton rêve, tu venais d'avoir deux présences dans deux matchs différents dans le baseball majeur. Comment ça se fait que tu t'en es pas remis, Derek?
Mais moi, j'étais prêt pour ça. Moi, mentalement, j'étais prêt à lancer au Stade olympique en avant de 30 000, 40 000, 50 000 personnes. J'étais prêt à affronter Barry Bonds. J'étais prêt à affronter José Canseco, que j'ai affronté plusieurs fois, puis j'ai passé dans le mythe plusieurs fois. Moi, j'étais prêt pour tout ça. Mon mental, le côté mental de la game, c'était, à un moment donné, ce que j'avais de plus fort. C'était ma force. Mais ce que je n'étais pas prêt, Mario, ce que j'étais pas prêt, ce que j'étais pas entraîné, j'étais pas prêt à me faire rétrograder. La coupure, la rétrogradation, le fait de te faire renvoyer, j'avais jamais été préparé pour ça. Et dans les circonstances, parce que moi, je faisais face à un ennemi qui m'était inconnu, qui était invisible. Dès l'arrivée de Jim Beattie qui arrivait de Seattle comme DG des Expos, sa première transaction, c'était de réclamer un lanceur qui s'appelait Trey Whitty dans un repêchage spécial qui s'appelait le Rule 5 Draft. Ça, c'est expliqué dans le livre, là. Mais c'est sa première transaction qu'il a fait, lui, en 1996. Première transaction avant le camp. Durant l'hiver, c'est sa première transaction. Et ce que cette transaction-là, ce que ça veut dire, là, c'est que tu dois garder le joueur dans les ligues majeures pour toute la saison. Sinon, tu dois le retourner à l'équipe d'où tu l'as repêché. Et Jim Beattie venait de Seattle, des Mariners. Il a réclamé un de ses joueurs, un de ses anciens joueurs. Puis je me souviens, moi, le camp, tu sais compter, là, tu sais combien de releveurs qui restent, combien de partants qui restent, là, quand il y a les coupeurs, comment tu fais, comment l'autre fait, comment lui a fait à sa dernière sortie, comment toi t'as fait. Puis à un moment donné, on arrive, il en reste plus beaucoup, là, de releveurs à couper, là. La dernière journée du camp, j'arrive le matin, il est en train de faire ses valises, il a été coupé. Il me donne la main, il dit « t'as gagné ». Il dit, c'est toi qui ont choisi. On me retourne à Seattle.
Et là,
je m'en vais. Je vais lancer à Vero Beach. On va lancer à Vero Beach. Je pense que c'est le jour de ma fête ou la journée avant ma fête. Je pense que c'est le jour de ma fête. Et je lance bien cette journée-là. Tout se passe bien. On me dit de préparer ma valise, parce que les Expos partaient cet après-midi-là, ou pas longtemps, mais on me dit de pas mettre ma valise dans les premières valises, de garder ma valise à l'écart. On n'a pas annoncé encore que j'ai fait l'équipe officiellement.
Ça, c'est le camp avant la même année où tu as eu tes deux présences, Derek?
Oui, on est au camp de la même année. Okay. Je suis le dernier joueur coupé.
Oui.
Je suis pratiquement coupé de l'avion, là. Je suis pratiquement enlevé de l'avion, là. Mais John Silverman, il me dit, mets pas ta valise avec le reste des valises. Ils ont réclamé au ballottage Mike Dwyer des Pirates de Pittsburgh. Ils ont décidé de réclamer un releveur, un job que j'aurais pu faire facilement à Mario. Si t'avais été, si t'avais le micro, là, t'aurais chialé ce soir-là, c'est sûr.
Ton problème, c'est que t'étais un gars d'ici, dans le fond. Il avait peur que tu deviennes populaire ou quoi?
Ben, écoute, lui, déjà, avant même qu'il s'installe à son bureau à West Palm Beach ou à Montréal, déjà, les gens posaient des questions à mon sujet. Puis il me connaissait pas, là, il devait déjà être tanné d'entendre parler de moi. Mm-hmm. Fait que c'était ça, là, quand j'ai dit un ennemi inconnu, là, ça déjà, là, je pense que ça jouait déjà contre moi.
Parce que ça dis que tu t'es senti mieux traité le plus court bout que tu as passé dans l'organisation des Mets de New York que les années que tu as passées dans le système des Expos, qui pourtant aurait dû te favoriser.
L'année que j'ai passée avec les Mets, je t'ai traité comme un joueur, comme une personne, comme un être humain. Et à Montréal, on dirait qu'on voulait tout faire pour éviter de me faire un traitement de faveur. On dirait qu'on voulait tout faire, les gens qui étaient là, parce qu'ils étaient tannés de se faire poser des questions à mon sujet. Jim Beattie, je pense, je me souviens d'avoir lu une citation. Arrêtez de me poser des questions, le camp n'est pas commencé encore. Ou j'ai même pas vu l'ensemble encore. Pis je pense qu'il disait ça à un journaliste. Arrêtez de me poser des questions. On n'a même pas commencé le camp encore. On n'a même pas fait de coupure encore. Puis je trouvais ça. Puis même une citation de Philippe Alou avant mon match à San Francisco, il disait, on voulait rappeler Alex Pacheco, mais je pense qu'il est dans un avion entre San Francisco et Pawtucket. Ça se peut-tu?
Mais je comprends pas, là. Je suis pas sûr que je comprends le dernier bout. Quand tu dis, il voulait rappeler Pacheco, mais pourquoi? Donc, Philippe, lui, était-tu pour toi ou il était avec de l'opinion de BT?
Non, il pensait rappeler Alex Pacheco lorsque j'ai été rappelé, moi, là.
OK.
Ce que j'ai compris dans cet article-là, là, ouais. C'est que les Expos avaient encore une fois pensé rappeler Alex Pacheco au lieu de me rappeler moi. Puis il y avait une moyenne de points mérités en haut de 11. Puis il pensait rappeler Alex Pacheco encore une fois, mais il dit il est en quelque part dans un avion entre San Francisco et Pawtucket. Fait qu'on a rappelé Derek Aucoin. Tu sais, c'était. Fait que j'ai toujours senti qu'il y avait cette espèce d'affaire-là où il y avait peut-être une pression qui était minime, mais...
Encore aujourd'hui, là, si le Canadien a un Québécois qui attire l'attention, là, pour eux, c'est un cas à gérer. Puis c'est le même qui le voit, puis je pense qu'ils en ont peur. Puis tout, je sais pas c'est quoi le problème, mais c'est comme... Parce que, tu sais, peu importe que ça fasse 20 ans ce que tu as vécu, c'est tout le temps du monde différent qu'ils vivent pour la première fois quand ils deviennent gérants de tel ou tel club. Puis je sais pas, mais en tout cas, ça a pas favorisé grand Québécois là dans les 25 dernières années. Puis en allant à la pause, parce qu'on va revenir, c'est une petite réflexion que je te partage. Si un jour le baseball revient ici, j'espère qu'on va pouvoir vivre une réalité différente parce qu'on a des gens de calibre pour le diriger, notre club de baseball, même s'il nous appartient juste à moitié. Mais en tout cas, au moins, on pourrait peut-être éviter des scénarios comme ceux-là. Quoique des fois, c'est du monde d'ici qui gère notre club de hockey, on n'a pas l'impression qu'il favorise tellement le talent d'ici. Mais bref, une courte pause sur la musique de Fernand Lapierre. Et en ce vendredi soir avec Derek Aucoin, on vous salue où vous soyez partout au Québec. Derek qui nous propose son livre « La tête haute ».
Mario, juste avant, il n'y a pas d'amertume dans ce que je dis, là. Juste parler de faits, là.
On jase, c'est juste ta biographie. Parler, c'est ça. Tu jases pas de ça tous les matins en te levant, là. C'est l'occasion d'en jaser. Oui. Puis il y a bien d'autres affaires dans ton livre qu'on va aborder après la pause. Derek Aucoin does the job again. Hey, je suis sûr qu'il y a un petit frisson qui te passe à toutes les fois que tu entends une description comme ça, veux pas, là.
C'était tellement, tellement bon. On était revenu loin cette année-là.
Avec les Lynx d'Ottawa.
Ben oui, j'avais été opéré au mois de janvier. J'avais été opéré au mois de janvier à l'épaule, la coiffe du rotateur. Tu sais, on parle d'adversité, puis de revenir, puis de pas lâcher, puis... Ça, c'était une année difficile, ça, en 95, revenir de cette opération-là et de revenir, non seulement revenir, mais au sommet de ma forme et terminer l'année comme ça, non seulement avec les Lynx, gagner le championnat, la Coupe des gouverneurs dans la Ligue internationale, être le lanceur gagnant de ça, mais j'étais allé par la suite en Arizona, puis j'ai été nommé le lanceur, le meilleur prospect, releveur, de la Ligue de l'Arizona, qui était une ligue incroyable. Alors, c'est toute une fin de saison, puis ces images-là et cette fin de saison-là, c'est incroyable. Et puis, ma femme Isabelle, elle a acheté un projecteur et on a la cassette VHS de ce match-là. On a regardé une manche ou deux avec Dawson, avec notre fils, parce qu'on là, on est tout le monde un peu à la recherche d'activités en quarantaine. Et sortir des vieilles cassettes VHS d'activités. J'ai pu voir ma femme Isabelle, qui est une patineuse artistique incroyable, qui participait aux Jeux du Québec.
Wow.
Elle était toute jeune, elle a remporté plusieurs médailles, mais la voir aller là, sur glace à 9 ans, à 10 ans, son coup de patin, sa foulée, pouvoir montrer ça à Dawson, puis là, le regarder, puis dire, Dawson, t'as du sang de champion en dedans de toi, là. Je parle pas juste de moi, là, je parle de sa mère plus.
La combinaison des deux.
Ah, et c'était incroyable de voir c'était du Super 8, mais là, de voir ça, la projection sur le mur, là, waouh, elle était bonne, puis elle était vite, puis elle était forte, puis c'était le fun. On trouve de belles activités à faire en famille.
Derek, écoute, je vais pas dans la chronologie que je l'avais dit, mais tu viens de parler d'Isabelle puis de Darcy. Oui. Fait que je vais peut-être revenir à d'autres éléments, mais en 2009 que tu as rencontré Isabelle, qui était, je pense, en train de souper avec Chantal Maccabé du Réseau des Sports. Isabelle travaillait au Réseau des Sports à cette époque-là. C'est une rencontre qui a changé ta vie.
Oui. Oui, c'est une belle rencontre, Mario. C'est une belle rencontre. 10 ans, le 26 décembre. Ça fait 10 ans, Isabelle qui dit que je suis sa meilleure aubaine du Boxing Day. j'habitais à Manhattan, comme tu le sais, j'habitais à New York dans le temps, j'étais en visite, je visitais ma famille, et mon ami Bruce Hills et Joël Bouchard, qui travaillaient également à ce moment-là à RDS, et on avait décidé d'aller manger dans le Vieux-Montréal. Et Isabelle célébrait un peu un transfert à Toronto du côté de TSN. Elle travaillait pour TSN et RDS et Chantal l'avait invitée à venir à aller manger dans le Vieux-Montréal. Joël venait me retrouver avec mon ami Bruce Hills. Et lorsque les dames sont rentrées, moi je connaissais Chantal, on les a invitées à venir se joindre à nous. Et comme on dit... The rest is history, mon ami.
OK,
c'était le début d'une belle histoire. Et Chantal prend beaucoup de crédit. Joël, elle me prend du crédit aussi, je pense. Mais je pense que le reste, c'est... Chantal aime dire qu'elle avait vu immédiatement une espèce de courant électrique là, entre Isabelle et moi là, qui était quasiment palpable. Là, c'était une belle rencontre qui a changé ma vie, absolument.
Tu as fait allusion à Joël Bouchard. C'est ton grand chum, Joël Bouchard, Alexandre Daigle également.
Oui.
Pourrais-tu dire que c'est... Ben, tu sais, je n'ai pas de classement là-dedans, mais en tout cas, c'est deux personnes très, très importantes dans ta vie. Je sais que tu as un paquet d'amis très, très chers, mais Alexandre et Joël ont une place vraiment spéciale. Hein?
Ah, c'est du monde spectaculaire. C'est du monde spectaculaire. Alexandre Daigle, c'est une personne incroyable. Grand cœur, généreux, me fait vivre des expériences. C'est tellement, me fait tellement vivre de belles choses. Joël, c'est quelqu'un on a passé des bons moments à New York. Joël a passé à travers des moments très difficiles. Si vous vous souvenez, lui aussi, il y a eu une méningite, il y a eu l'omoplate, il s'est fracturé, brisé l'omoplate et Joël, a joué avec les Rangers et avec les Islanders et Joël a resté souvent chez moi et c'est arrivé souvent que Joël, lors de ses traitements, lors de sa remise en forme, avait soit le médecin ou la clinique ou les choses, c'était pas loin de chez nous, au Upper West Side de Manhattan, il restait chez nous, il restait avec moi, avec mon chien, ça y amenait beaucoup de réconfort. Mon chien prenait bien soin de lui, on prenait bien soin de lui et on a développé vraiment, vraiment une belle amitié, une belle complicité et j'adore Joël, j'adore ces gars-là, tu peux pas demander vraiment des meilleurs amis que ça. Mon ami Jean Marchand, c'est un ami d'enfance que je parle aussi dans le livre, qui est le parrain à Dawson. On est choyé, là. On a des amis incroyables partout autour de nous. Alors, mais Joël et Michel Therrien et Alexandre Daigle, c'est chanceux d'avoir rencontré ces gars-là puis d'avoir vécu des choses incroyables grâce à eux, avec eux. Et j'ai hâte d'en vivre d'autres.
Je savais pas que tu étais un si grand fan de lutte avec ton frère... Razor, Raymond, que j'ai rencontré il n'y a pas tellement longtemps, qui revenait d'Europe et qui est venu te rendre visite. Tu l'avais amené pour une émission. Mais donc, vous étiez des grands amateurs de lutte. De là, tu l'as baptisé Razor. C'est une personne importante, ton frère également, la famille, ton grand-père, tes parents, ouais, ta mère particulièrement.
Oui, oui.
Ouais. Parle-moi de ton grand-père. Mais parle-moi de qui tu veux, en fait, mais raconte-moi quelque chose par rapport à la famille.
Ben juste faire un petit virgule sur la lutte, parce que si on retourne au début des années 80 avec Hulk Hogan, je commence l'école secondaire à Saint-Sacrement, puis un des gymnases avait la salle de théâtre et le gym, puis il y avait les gros matelas de saut en hauteur. Puis le stage du théâtre, il n'était pas bien ben haut. Mettons, il était peut-être 4 pieds, 5 pieds de haut. Mais le matelas de ça en hauteur, il était pas mal plus épais que ça. Hmm. Moi, je me régalais. Moi, j'adorais faire les souplesses arrière du stage. Alors, tu sais, on est à la hauteur de la lutte là, de George the Animal Steel, puis Coco Beware, puis oui. Razor Ramon, puis Jake the Snake Roberts. Alors, il y avait des galas de lutte improvisés qui partaient pendant l'heure du lunch là-dedans. Puis tous les chums, on avait des noms de lutteurs. Fait que mon frère, qui avait 2 ans plus jeune que moi, c'est devenu normal que Raymond est devenu Razor. Hmm. Moi, c'était Coco Be Dare pour Coco Beware. Puis Derek, c'était Coco Be Dare, c'était mon nom de lutteur. Le gars avec l'oiseau, là, tu sais, avec
oui,
le perroquet.
Oui, je me rappelle,
là,
ouais, je me rappelle.
Moi, c'était ça mon nom de lutteur. Puis on avait tous des noms de lutteur, puis on s'amusait avec ça. Fait que ça, c'était ma petite virgule sur la lutte. Parce que t'as ouvert la porte pour ça, mais on avait bien du fun avec ça. On avait des thèmes. On rentrait avec les thèmes musicaux aussi, là. On était vraiment crinqués à ce point-là. dans le gymnase S49 de l'école secondaire Saint-Sacrement à Terrebonne. Fait qu'on s'amusait avec ça. Alors, mon grand-père, Alfred Cockle de Pointe-Claire, qui était un pilote d'avion, un enseignant aussi, qui enseignait aux pilotes. Et lui était spécial. Lui était spécial parce qu'il nous aimait beaucoup, mon frère et moi. On était très actifs. Mais une chose que je raconte dans le livre, une chose que je pourrais faire dès le printemps, lorsqu'on pourra aller se promener, puis on va pouvoir aller profiter de la vie un peu, là. Mais Mario, je pourrais t'amener au moment, à l'endroit précis où j'ai capté mon premier ballon, mon premier fly.
Oui.
Tu sais, toi, t'aimes ça coacher. Mm-hmm. Toi, t'aimes ça frapper des roulants. T'aimes ça frapper des flys. Je sais pas comment tu frappes tes flys, mais mon grand-père, là, était capable, lui, avec une main, avec sa main droite, il tenait la balle de baseball, il tenait le bat. Il lançait la balle dans les airs avec sa main droite et il frappait des roulants puis il frappait des flys. Puis il me frappait ça puis on pouvait faire ça juste lui et moi, là, pendant des heures. Là, un moment donné, il en frappe une dans les airs. Puis je me souviens, je la regarde, je la suis. Là, je la suis, je l'ai, je mets mon gant en avant de mon front, mes deux mains, puis je l'attrape. Puis je me souviens encore aujourd'hui du feeling que j'ai eu d'attraper mon premier ballon, mon premier fly. Puis aujourd'hui, là, enlève la neige, là, mais je pourrais t'amener pratiquement à l'endroit exact où j'ai attrapé ce premier fly-là, ce premier ballon-là.
Avec ton grand-père.
Avec mon grand-père. Puis dans ma... Je sais que je t'ai déjà parlé de la bucket list, là.
Oui.
Mais dans ma liste, là, moi, c'est de frapper le premier fly à mon garçon que lui va attraper. Parce que c'est un souvenir que j'ai jamais oublié. Je vais avoir 50 ans là, bientôt, là. Puis j'ai jamais oublié, un, où j'étais, puis deux, comment je me sentais lorsque j'ai attrapé ce fly-là, puis quand j'ai regardé le visage à mon grand-père, comment il était fier quand j'ai attrapé mon premier fly, le premier ballon. Parce qu'attraper une balle...
Ça laisse une empreinte.
C'est incroyable comment ça m'a marqué. Et pis ça l'a inspiré quelque chose, cette histoire-là, parce que j'avais raconté un petit extrait de cette histoire-là. À un moment donné, je faisais un match avec Denis Cazavant. Et je raconte un petit extrait de cette histoire-là.
Oui.
Et des téléspectateurs de TVA ont sauté là-dessus, puis ils ont dit, « Hey, je me souviens, moi aussi, j'allais jouer avec mon père ou avec mon frère, puis on se frappait des flys, tout ça. » Et j'ai fait ça il y a quelques étés, parce qu'il y en a un, Frank Étier, qui nous écoute religieusement, puis qui écoute en ce moment, il a dit, moi, je partais, Derek, tu t'organises ça, là, une journée où tu nous frappes des flys. Moi, je suis là. Et je l'avais fait il y a 2 étés, Mario. Il y a 78 personnes qui s'étaient présentées. Et tout ce qu'on faisait, c'est on frappait des flys. On frappait des ballons. Il y a 78 personnes qui s'étaient présentées avec nous autres. Après ça, je leur avais lancé la pratique au bâton. Ils avaient couru les buts un peu à Boisbriand. On avait fait ça à Boisbriand. On avait eu un fun noir. et on planifiait le refaire cet été, évidemment, en 2019. Malheureusement, on n'a pas eu la chance à cause des circonstances, mais ce serait un rêve de refaire en 2020, de le reprendre en 2020. Puis Mario, cette fois-ci, tu vas être là avec nous autres.
Bien, ça serait vraiment incroyable. On va se mettre ça à l'agenda, même s'il faut rester à un mètre de distance. On va le faire pareil. Et mon Coco Be There, on va s'en aller. On va s'en aller sur ton ancienne musique de lutteur sous-sol à la pause. Et si t'as l'énergie, là, je pense que je vais te garder après les nouvelles tout à l'heure, Derek, hein, parce qu'il y a tellement de sujets que j'ai pas eu l'occasion d'aborder. On revient tout de suite de toute façon dans quelques instants. Okay?
J'aime ça.
On est là, c'est vendredi soir, puis on a Coco Be There et nous autres. Fait que, hey, let's go!